Radio. Radio. Radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
Monsieur le professeur, vous l'aimez?
We're going to have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Et bienvenue sur Ondes Courtes dans l'émission Clap, l'émission du cinéma qui s'écoute, qui est proposée par Kaleidos Film, j'ai réussi à le dire. Ce soir, nous sommes en compagnie de Charlie, comme la fois précédente. Salut Charlie, ça roule ?
Salut, ça va toujours bien.
Et également en présence de Hugo Moreau.
Salut.
Bonsoir. De Simon Armengo.
Bonsoir.
Bonsoir. De Virginie Fraisse.
Bonsoir.
Et de... alors, Nguda Prince-Ba.
Ouais, Nguda Prince-Ba, ou Prince, ou... En général, il m'appelle Prince.
Je t'appelle Prince.
Prince.
Ouais. Et le Prince, le fameux. Merci, de... Merci d'être venu. Donc, l'émission d'il y a un mois, enfin, je sais pas exactement comment on l'émission,
la dernière émission,
c'était un petit panel de différents portraits qu'on peut faire en fiction radiophonique. Et là, on va plutôt se... Enfin, fiction
pas en
ou
fiction.
Non,
ouais,
pas forcément fiction.
En portrait, on va dire.
En portrait radiophonique.
Différents portraits.
Et là, on va s'intéresser à des portraits qui sont plus documentaires, avec donc chacun des invités ici qui a une œuvre à proposer. Et on va commencer tout de suite avec...
Gabi. On va commencer avec Gabi de Simon Armengo. Alors c'est un exercice. Alors c'est toi Simon qui va sûrement me rappeler de l'exercice, mais c'est un exercice fait à l'ESAV. Je crois que si je me rappelle bien, c'est un exercice avec le master son et le master réa. Alors
exactement, c'est une collaboration entre quelqu'un du son, de master de son, avec quelqu'un de master de réalisation, une collaboration où au final l'un est technicien et fait la prise de son et l'autre est réalisateur, mais il y a quand même une grosse conversation entre les deux pour savoir qu'est-ce que veut faire chacun, qu'est-ce que veut expérimenter chacun. Et du coup, moi, le mien, Gabi, on est parti dans l'univers des oiseaux, on a rencontré quelqu'un de très très cool, mais je vais pas trop spoiler, je vous laisserai écouter et on en parle après.
C'est parti.
C'est ce truc que vous allez voir. Hein.
Oh, là, c'est simple, hein. C'est croquette pour champ. Mais après, j'ai déjà un autre mélange qui est fait, qui est pour insectivore, donc je mélange tout ça. Pour information, moi j'ai de l'acouphène, donc un sifflement dans les oreilles, qui est gênant. Quand je suis avec mes oiseaux, le chant de mes oiseaux recouvre, ça doit être une fréquence identique, enfin je ne sais pas. Toujours est-il que quand je suis avec des oiseaux, cet acouphène, je ne l'entends pas. Donc moi, vivre au milieu de mes oiseaux, c'est très, très apaisant pour moi.
Bon alors, on chante ou on chante pas?
Les oiseaux ont ce côté majestueux du chant apaisant, de quelque chose de vivant que l'on regarde. On peut s'asseoir devant une cage et regarder un oiseau vivre. C'est sûr, hein, ils sont en cage, mais s'ils n'étaient pas en cage, ils seraient morts. Hein. Que j'ai récupéré, imprégné par l'homme et mal éduqué, donc il fallait que je la réintroduise auprès de corbeaux pour apprendre à devenir corbeau. Avec ma femelle corbeau-fille qui était championne de France, tombée amoureuse, donc volière côte à côte. Le mâle prend de la nourriture et à travers le grillage donne à la femelle. La nuit, ils dorment côte à côte, c'est-à-dire qu'il y a juste le grillage qui les sépare, ils dorment sur le même perchoir côte à côte. Ils sont tombés amoureux et donc quand je les séparais, hein, ils s'appelaient à longueur de journée. Hein, moi, hein, je ne pouvais plus les entendre hein, s'appeler. Donc j'ai dit, voilà, bon, c'est simple, hein, je vais mettre ensemble et arriver à ce qui est arrivé. Est arrivé deux petits hybrides magnifiques. Sur ce coup-là, les oiseaux, ils ont gagné hein, parce que j'ai pas voulu désaccoupler. Je pense que ça aurait donné, en période de reproduction, j'aurais eu des problèmes. Quoi. Alors, là, c'est des... Là, c'est des... ils se parlent, là, les corbeaux, hein. C'est le couple là, qui se parle. Hein. Quand la nourriture est arrivée, ça discute. Là, là Eux sont un peu plus agités parce qu'on est trop proches. Hein. Enfin, vous êtes trop... Là, il râle, lui, parce qu'on est là.
Bon, je suis vu que pour le moment, la broie ne fonctionne pas. Les oiseaux, ils me parlent. La broie qui ne fonctionne pas. Ça fait deux fois que je passe et deux fois qu'ils me font... Ils ont un problème de vivre une graine à l'intérieur, donc... De passer un petit coup d'écouvillon, de nettoyer. Voilà, et en principe, il suffit de voir s'il ne fonctionnait pas, les oiseaux doivent venir voir le site. Quoi, hein. Alors, il ne fonctionnait pas. Hein.
J'ai eu un peu de tout dans ma vie, hein. J'ai eu jusqu'à 16 chevaux ici, donc il m'est arrivé que le cheval marche sur une poule. Donc c'est un accident qui arrive, la poule elle est... Je sais qu'il n'y a plus rien à faire, donc il faut l'abattre. Je ne peux pas toucher un animal et le tuer de mes mains. Je suis obligé de prendre un fusil et d'abattre à distance un animal. Et si je peux mettre un carton devant, je le fais parce que c'est quelque chose qui me répugne, ça me fout par terre quoi, de faire ça.
Moi, un chien qui vient me commettre des dégâts, moi j'en veux pas au chien. Le chien, c'est comme mes chiens, s'ils rentrent ici, ils vont faire des dégâts. Donc c'est à moi de me débrouiller pour pas qu'ils rentrent ici. C'est pas le chien qu'il faudrait abattre, c'est le propriétaire qu'il faudrait abattre.
Donc, vivre sans les hommes, je pourrais facilement. Sans rencontrer des humains, pendant, ça m'irait très bien, mais sans les animaux, c'est pas possible.
Donc un portrait très touchant, et j'imagine que Gabi, c'est le nom de...
Exactement, c'est le nom du personnage principal. Du... Ouais.
Et tu l'as rencontré comment ce...
Ben, on est parti sur plusieurs pistes, sur plusieurs thèmes, et celui qui nous a le plus séduit, pour Phi, qui a été ma sondière, du coup, enfin, mon ingé son sur cette pièce, elle avait vraiment envie de partir à la nature, à la campagne, sortir un peu de Toulouse, même si c'est à proximité. Et moi, j'avais envie de rencontrer une personne touchante. Et à force de contacter des gens, ça nous a pris 2-3 jours. Je suis tombé sur ce mec-là qui paraissait très, très bourru. Je l'ai eu qu'au téléphone au début. Donc, première approche sonore, encore une fois. Et il a quand même été très partant. Et du coup, on est allé chez lui, entouré d'oiseaux. Et je me suis perdu, c'était quoi ta question ?
C'était comment tu l'as rencontré, donc du coup, le téléphone ?
Voilà, j'étais en plein là-dedans. Et du coup, on est allé chez lui, mais juste après l'avoir appelé une fois, quoi. Et on ne savait pas trop ce que ça allait donner. On savait qu'il était passionné de bonsaï, d'oiseaux. Et en fait, son jardin était rempli de bêtes. Et le mec, en plus, était très... Je ne sais pas comment dire. C'est bizarre parce qu'il s'exprime de manière très bourrue, il ne finit pas ses phrases, il mâche ses mots, etc. Et en même temps, il comprend énormément les oiseaux. Et du coup, tout ce concept-là, enfin cette communication qu'il a avec les oiseaux et qu'il n'a pas forcément avec les humains, moi, ça m'avait vachement plu. Et Phi aussi. Et du coup, on est parti toute une après-midi avec lui. Enfin, on est resté chez lui, mais...
Et c'est rigolo parce qu'il dit qu'il n'aurait pas besoin des humains pour vivre, mais il passe son temps à parler. Je ne sais pas si c'est un effet de montage ou pas.
C'est un effet de montage. On avait envie qu'il soit un peu dispatché dans l'espace. C'est pour ça qu'il se retrouve à droite, à gauche, un peu partout dans l'espace. Mais il ne parlait pas tant que ça. Je lui ai beaucoup posé de questions, etc. Il passait beaucoup de temps à... En fait, il parlait énormément de ces oiseaux. Dès qu'on se déplaçait, dès qu'il entendait un chant, pour nous, il y avait des oiseaux partout, on n'arrivait pas à les reconnaître, mais il était à l'affût et il disait bah, « ça c'est elle, ça c'est lui, j'ai fait ça avec lui ». Et puis il commençait à raconter sa vie petit à petit. Et donc au final, en fait, globalement, sur 4 heures d'enregistrement, il a pas mal parlé, mais ça a été dur au début en tout cas.
Est-ce que t'as l'impression que si t'étais venu avec une caméra, ça aurait changé la donne Le fait de faire un documentaire juste avec le son, c'est une approche différente. Toi qui aussi fais des films, audiovisuel.
C'est moins intrusif. C'est un micro, c'est un petit truc noir qui prend pas beaucoup d'espace, où on réfléchit le placement, etc. Ça nécessite un petit temps technique pour que le son soit pris comme on le veut, mais il n'empêche qu'une caméra en plus, c'est tout un dispositif bien plus complexe et bien plus imposant à infliger à celui qu'on filme. Et je pense qu'il aurait été moins réceptif. En tout cas, il aurait été plus fermé dans ce qu'il nous a dit. Au fur et à mesure, il se dévoilait plus. Et je pense que le son a aidé. Seulement le son a permis ça, quoi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Bah, moi, j'ai l'impression que c'est un portrait en creux, parce qu'il parle des oiseaux. Et c'est en parlant des oiseaux et de sa relation avec les oiseaux qu'il parle de lui. Et du coup, il existe... à travers les oiseaux. Enfin, j'ai l'impression que c'est un portrait des oiseaux aussi qui l'entoure.
Cool.
Donc c'était... c'est très particulier comme portrait.
Ben, merci. Je pense qu'on va passer au suivant.
Oui, ben, on peut passer au suivant. Le suivant, c'est une œuvre que vient nous présenter Prince, ici présent, qui s'appelle Bonsoir France, au revoir Sénégal. Alors, est-ce que tu veux qu'on en parle 2 secondes avant ou on le lance et on en parle après?
Bon, on le lance et on en parle après.
Allez, c'est parti.
Je viens du Sénégal. Oui, je suis d'origine Paul.
Je suis né à Dakar, à la Gueule Tapée, à Soumbédioun. Bon, jusqu'en CM2, on avait des maîtres, des fois des Français, des fois des Sénégalais. Mais une fois qu'on était en 6e, c'était pratiquement que des Français. Et ces Français-là nous parlaient plus de la mère patrie, qui est la France, évidemment. Et la France, c'était les vertes prairies, les vaches qui paissaient et qui regardaient passer le train paisiblement. Et puis, les arbres fruitiers, les pommiers. Enfin, nous, les pommes, on les voyait sur les étals des marchands, mais on n'avait jamais vu un pommier de notre vie. Alors, les fruits qui se balançaient, les pommiers, nous, on rêvait. Voilà, la finition, c'était la France. Si on n'était pas allé en France, on avait manqué quelque chose parce qu'on apprenait le français, mais le vrai français. Parce que quand je suis venue en France, j'ai trouvé que les Français parlaient mal le français, conjuguaient mal. Voilà, les conjugaisons, c'était n'importe quoi. Même les ministres, j'ai vu... parler n'importe comment.
C'est ma grand-mère qui m'a élevée et j'ai eu quand même une enfance qui est bien parce qu'on vivait en communauté dans la maison. On était quand même plus de trentaine dans la maison. Mes cousins, mes cousines, mes grandes-tantes, tout et tout. C'était une vie formidable. Et j'ai fréquenté l'école jusqu'à CM2. Et en CM2, au Sénégal, il faut avoir le certificat d'études et l'entrée en sixième. L'entrée en sixième, si tu l'as, tu vas dans des écoles publiques pour continuer, pour aller au collège. Et moi, je n'ai pas eu l'entrée en sixième, j'ai eu juste le certificat d'études. Bon, mon père, il commençait à me payer l'école privée. Mais par manque de chance, avec les moyens, il n'a pas pu continuer. Et c'est comme ça que j'ai arrêté mes études. Ma grand-mère, tellement que quand même qu'elle avait quand même un esprit vraiment, vraiment ouvert, elle a vu que quand même que mon avenir commençait à dérailler parce que, étant jeune fille, que je devais aller à l'école, que je partais pas à l'école, je faisais rien. Un jour, ma grand-mère m'a dit, écoute Sophie, est-ce que tu veux aller en France? Je lui ai dit, oui, je veux aller en France. Il m'a dit, tu vas y aller, puisque ici tu fais rien. Au moins, si tu vas en France, tu vas avoir un avenir peut-être meilleur qu'ici.
Bon, ayant fait ma vie un tout petit peu là-bas, parce que je me suis mariée là-bas, j'ai fait ma petite vie là-bas et tout, bon, ben, ça a tourné au vinaigre, tout ça. Donc, j'ai dû me remarier avec quelqu'un et je suis venue en France avec lui.
Quand je suis venue avec un bébé. Et arrivée déjà à l'aéroport, j'étais un peu découragée parce que j'ai vu que quand même que la vie qu'on menait en Afrique et ici, c'est pas pareil. Or que chez nous, déjà, c'est ça. Quand tu croises quelqu'un, forcément, tu lui dis bonjour. Ça va.
Je voyais les gens courir, courir, courir. Je dis jamais je pourrais faire cette vie-là.
Avec le temps aussi, quand j'étais venue, tout était gris, c'était dans les années 80. J'avais juste envie encore de rentrer dans l'avion pour repartir.
La douche froide de ma vie, je suis sortie vers 7 heures de l'aéroport. Tac, le froid. Je rentre dans l'aéroport de nouveau et je dis, bon, ben, je reprends l'avion et je repars. Parce que ça, je ne peux pas. J'étais très frileuse et j'étais habillée comme en été.
Il y a ma mère qui est venue me chercher avec son mari. Je lui ai tout de suite appelé papa, il m'a répondu. Par contre, ma mère, je lui ai tout de suite appelé maman, elle ne m'a pas répondu. Et je lui ai appelé dans notre langue yaï, non plus, elle ne m'a pas répondu. Quand je lui ai adressé son nom, comment il s'appelle, je l'ai appelé par son prénom, elle m'a répondu. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'appelle par son prénom. Ouais, c'était déjà tendu.
Donc, les vertes prairies, les vaches, le train qui passe, que les vaches regardent paisiblement et tout. Rien du tout. J'ai vu la pluie, j'ai vu le mauvais temps, j'ai vu des nuages et j'ai vu des gens pas gais. Des gens morts dans le feu. Ils étaient complètement morose, lugubre. Voilà. Il n'y a rien. Et ça parlait. Et ça chuchotait. Chacun là. Bon, au Sénégal, les gens ne chuchotent pas. Ils discutent. Depuis que je suis née, je n'avais jamais vu ça. Je me dis, pourquoi ils sont tristes? Ben, on dit qu'ils ont de l'argent. On dit qu'ils ont tout. Ils ont tout ce qu'il fallait. Elle était où, la gaieté? Nous, on est là-bas, on n'a rien. Ici, il paraît qu'ils ont tout. Je ne pensais à rien d'autre que le jour où je rentrerai chez moi, au Sénégal.
Ils m'ont monté, parce que quand j'étais venue ici en France, c'était pour faire continuer un peu mes études. J'avais même commencé à faire l'école aide-soignante. Et ils m'ont appelé pour me dire que ici c'est la France, il faut contribuer à la maison et tout et tout. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de faire l'école aide-soignante. J'avais commencé. Et j'ai commencé à faire le ménage, à travailler dans la restauration. C'était vraiment difficile.
Alors je rentre dans la voiture. Et après, le fameux jour où on devait aller à But. Il cherchait une télévision et puis il ne trouvait pas But. Il ouvre la fenêtre, il parle en blanc, qui lui parle. Et puis il y avait des buées qui sortaient de leur bouche, à tous les deux. Les buées se rencontraient et faisaient une de ces vapeurs. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on parle et les buées vous crachent à la figure? Je te jure, hein, les buées faisaient... J'avais envie de faire comme ça. De pousser la buée avec la main et lui, il continuait. Et moi, cette buée, je n'écoutais pas ce qu'il disait, je regardais que ces deux buées-là qui se rencontraient. Après, à un moment, il lui a dit merci, merci. Lui, il avait compris. Il ferme les vitres. J'ai dit, mais vous, quand vous parlez en hiver, c'est des buées? Il m'a dit, ben oui, il fait froid. Il ne comprenait même pas ma question, tellement pour lui, c'était normal. D'accord. Je suivais. Je n'avais ni repère. Je ne savais pas si j'étais au sud, au nord, à l'ouest, à l'est. Je ne savais pas où j'étais, je suivais.
J'ai ramassé un peu d'argent. J'ai dit, tiens, bon, maintenant je vais rentrer chez moi. Et là, je suis reparti 15 mois après au Sénégal. Quand je suis reparti au Sénégal, j'ai dit à ma grand-mère que maintenant je suis rentré. Je ne vais plus repartir en France. Et ma grand-mère, elle m'a dit, écoute Sophie, la France c'est dur, mais il faut savoir que tu as un enfant. Même si tu restes ici au Sénégal, tu ne pourras pas s'occuper de ton enfant. Or que là-bas, si tu repars, ton enfant, quand même, il aura une bonne école, il aura une éducation. Tu pourras travailler et tu pourras faire quelque chose. Tu vas rentrer, Sophie, tu vas rentrer, tu vas repartir en France.
En 84, j'ai essayé de rentrer au Sénégal. Je cherche du boulot, c'était pas facile. Et j'attends, ça venait pas. Et c'était pas possible d'amener des enfants dans un univers là où ils étaient quand même bien lotis. Et puis de les ramener là-bas comme ça, sans avoir une situation. Alors qu'ici, qu'on le veuille ou non, dès qu'on a des enfants, on a une petite situation quand même qui vous permet de survivre. Pas de vivre correctement, mais de survivre. Alors je suis revenue, et finalement, tant bien que mal, mon regard a commencé à changer. J'ai travaillé à une bibliothèque pour enfants ici. J'ai continué à travailler comme secrétaire. Bien, j'ai essayé de faire une activité, j'ai essayé d'entreprendre.
Quand je suis venue, c'était encore plus dur. Ma mère, elle se lève, elle me dit, écoute, ou bien mon beau-père, aujourd'hui, tu ne dors pas ici. J'ai dormi plusieurs fois dans les escaliers avec mon couverture et mon fils. À l'époque des années 80, tout le monde savait quand même qu'il faisait froid. J'ai connu un homme qui s'appelait Tano. Tano m'a ramené voir l'instance sociale qui m'a fait ouvrir un dossier pour avoir un appartement. Le premier appartement qu'on m'a donné, c'est ça que j'ai pris. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Ça fait une trentaine d'années que j'habite dans le même appartement.
J'ai pris des coiffeuses qui m'ont mené la vie dure parce que je ne savais pas coiffer. J'ouvre un salon de coiffure sans savoir coiffer. À ça, elles me l'ont bien fait sentir. J'ai dû apprendre. Parce que tant que je ne savais pas coiffer, j'étais foutue. Dans chaque domaine, il faut se battre. Tout le temps. Donc, toute ma vie durant, je me suis battue.
Je travaille en Allemagne dans différentes compagnies, Ompex, Orsay, Punky. J'ai déjà travaillé, je connais quand même toutes les fabriques, je travaille pas mal dans des usines aussi.
J'ai couru, je suis rentrée dans la routine et je pensais plus à rien qu'à aider mes enfants, mes parents là-bas qui attendaient aussi. Et puis voilà, et dans ce dédale de... je n'avais plus de place à penser, c'était là bien ou là mauvais, je me sentais presque bien. Voilà, presque bien.
À cette époque-là, je ne pensais même pas prendre un nourrice. Parce qu'avec ce que je gagnais, ce que je faisais, puisque je faisais le ménage, je le laissais ici à la maison. Il n'avait même pas encore 4 ans. Il fallait qu'il grandisse vite fait. Je lui disais, écoute, si quelqu'un sonne à la maison, n'ouvre pas. Moi, j'ai mes clés. Si quelqu'un téléphone à la maison, ne prends pas. Si c'est moi, je vais sonner, je raccroche. À la deuxième fois que je sonne, tu prends, ça c'est moi. Je lui faisais ça, sa nourriture, je n'avais pas beaucoup. Parfois je faisais du riz au lait, parfois j'achetais le merguez, parfois si c'était bien, j'achetais le merguez. Je travaillais, je pense, de 19h ou 18h jusqu'à 21h ou 22h. Il faisait tard. Quand je venais, parfois, je le trouvais la télé allumée. Il était là. en train de dormir ou bien il dormait dans sa chambre. Pour moi, je n'en veux même pas à ma mère. Je n'en veux même pas à mon beau-père. Je les remercie parce que c'est eux qui m'ont donné la rage que j'ai aujourd'hui de travailler. J'ai que deux garçons, mais chapeau. J'habite à Neuilly et je suis fière et j'ai fait quelque chose quand même de mes enfants, que je touche du bois, que j'espère qu'ils vont continuer bien comme ça.
Et puis finalement, voilà, mes enfants faisant des études, à un moment, on se dit, on ne peut plus les ramasser comme ça parce qu'on est toujours dans notre esprit. Je vais prendre mes enfants un jour et partir avec. Non, ils ne vous suivent plus, hein, comme les poussins. Je pensais la poule et ses poussins, tu sais, dès que la poule parle, les enfants suivent. Et moi, dans ma tête, c'était toujours comme ça, tu parles. Les poussins, à un moment, ils ne vous suivent plus la poule, hein, ils s'en vont. Eh bien, j'en suis là. Pour moi, c'est ça la France. J'ai toujours vécu avec l'idée, un jour, je vais rentrer. Si on m'avait dit que moi, je resterais là 30 ans passés, j'aurais dit, alors là, vous avez menti. Personne, je n'aurais jamais cru. Et maintenant, j'ai perdu les parents, j'ai perdu, voilà, je suis là. J'ai mes soeurs, mais c'est tout. J'ai plus rien là-bas, presque. Toute ma vie d'adulte, je l'ai vécue ici. Quand je suis venue, j'étais toute jeune, presque. Et puis j'ai vécu ma vie d'adulte ici. Et j'ai travaillé avec eux, j'ai côtoyé, j'ai parlé avec ces gens-là. Et on pense pareil. On pense pareil. Quand quelqu'un parle, des fois, je peux terminer la phrase. Moi, quand je parle, l'autre peut terminer la phrase. Je peux me disputer avec une Française. Je peux tout faire. Alors que me disputer avec une Sénégalaise là-bas, je ne peux plus. Parce que les mots qu'elle va employer, ça va me choquer, je ne pourrai plus. On nous appelle les étrangers, nous. Ah oui, 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 ah c'est là, ah oui, oui, oui. Mais vous rentrez quand? Qu'on nous dit. Mais tu rentres quand? Je dis, mais c'est ici que je dois rentrer. Ah non, 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 ah non, tu n'es plus d'ici. Pour eux, je suis perçue comme Française. Donc maintenant, tu dis si je me sens française. Je me sens apatride. Je n'ai plus de pays. Je n'ai plus de pays. Je ne suis ni sénégalaise ni française. Mais j'aimerais quand même récupérer ce qui me reste de vie là-bas.
Et mes enfants qui sont là, parfois j'ai peur. Un jour, c'est sûr que je ne serai plus là. Je veux quand même qu'ils puissent connaître l'Afrique, qu'ils puissent connaître leurs cousins, leurs cousines, pour qu'ils connaissent quand même leurs racines. Parce que je pense que quand même l'Afrique, on l'a un peu oubliée. Tout le monde doit à l'Afrique. Que ce soit les Antilles, que ce soit l'Amérique, que ce soit partout. Tu vois, les Africains, on nous a ramenés de force. Et quand même, il y a beaucoup de personnes qui ignorent ça. On voit dans les camps de Tcharoï, au Sénégal, combien de milliers de personnes qui sont couchées là-bas. De médiatiser, combien de morts ils sont. On va dans les cimetières ici, à Kronenbourg, on trouve tous les noms. Tous les noms des Sénégalais, tous les noms des Africains. Parce que pour l'Allemagne, avec l'Hitler et tout ça là, on était là déjà. Pour les métros à Paris, on était là. Pour tout, on était là pour la France. Nous quand même, si on vient ici en France, c'est notre pays. Aujourd'hui, il y a la crise, c'est vrai, on dérange. Mais moi, je me sens chez moi. Ici, c'est chez moi en France. Parfois, je prends, j'attache mon foulard africain. Je vais au travail avec. Parfois, je prends ma robe africaine. Je vais au travail avec. Je dis au moins, Ça, je le garde avec moi. Mon accent africain aussi, je le garde avec moi. Allez.
Mes remerciements à Safi Touba et à Aïcha Diallo. Captation sonore réalisée au Sénégal par Sandrine Magne, Hélène Marker, Pauline Segala. C'était Bonjour France, Au revoir Sénégal, une proposition de Ngouda Prince-Ba.
Et pour ma part, c'est la deuxième fois du coup que je l'entends. Et je me suis rendu compte sur la deuxième écoute d'ailleurs que par le portrait croisé que tu faisais de ces deux femmes, il y a un autre portrait derrière, j'ai l'impression, qui se fait subjectif de ce qu'elle voit comme pays. C'est-à-dire qu'elle trace un portrait de la France et du Sénégal à travers leur vision. Et c'est marrant. Enfin, je m'en rends compte sur la deuxième écoute. Je pense que sur la première, j'étais plus sur le portrait d'elles-mêmes. Mmh. Mais à travers ce portrait, elles en font un portrait plus général d'un pays. Enfin, pas plus général, mais surtout plus subjectif, quoi. Une vision qu'elles donnent d'un pays ou de l'autre, quoi. Et voilà.
Elles sont reparties au Sénégal, du coup ?
Non.
Ça a été enregistré au Sénégal ?
Non, ça a été... les sons d'ambiance, c'était des prises de son au Sénégal. Non, elles sont toujours en France. En fait, c'est ma mère et ma tante. D'accord. Donc non, elles sont ici. Et je pense que retourner au Sénégal après avoir vécu 30 ans ailleurs, c'est peut-être un peu compliqué. Mm-hmm. Donc là, je pense qu'elles sont... Donc je pense qu'elles, idéalement, elles aimeraient bien faire 6 mois en France et 6 mois au Sénégal quand le froid arrive. Mais voilà.
C'est hyper dur ce truc-là de se sentir apatride et d'être chez soi nulle part en fait.
Ouais.
Parce qu'en France on dit que c'est des étrangères, au Sénégal si elles y retournent c'est des étrangères aussi apparemment. Enfin c'est dur ça.
Après. Moi je m'en rends pas compte parce que moi je suis pas dans leur position, moi je suis quasiment né ici, enfin je suis né avec bébé en France, enfin je suis arrivé bébé donc je m'en rends pas compte. Pour ma tante, j'ai du mal à en parler parce que je la connais un peu moins bien que ma mère, nécessairement. Mais ma mère, elle, par contre, elle se sent quand même sénégalaise, quand même davantage. Hein. Parce que je pense que déjà, par rapport à ma tante, elle a une toute petite famille. Alors que ma mère, enfin, du côté de ma mère, enfin, on est une centaine, 200, 300. Donc du coup, je pense que ma tante, ça doit être dur parce que du coup... Elle n'a plus personne au Sénégal quasiment. Alors que c'est pas tout à fait la même situation.
Ouais. Elles ont toutes les deux vécu autant de temps au Sénégal ou...
Ma mère, elle arrive en France à 18 ans. Ma tante, un peu plus. Enfin, globalement, elles ont fait quand même toute leur vie ici en France, quoi. Mm.
Et pourquoi tu as fait le choix de prendre la parole des deux et pas que d'une ?
Alors là, c'était un choix purement éducatif. Hein. Parce qu'en fait, monter des voix comme ça d'une seule personne, je l'ai fait pas mal. J'ai fait un master de création sonore. Mais je m'étais jamais vraiment confronté, enfin je m'étais déjà confronté à la question de multiplier des voix, mais souvent c'était des gros blocs que je faisais, et dès que l'autre avait fini son discours, je basculais sur un autre. Alors que là, j'ai essayé de vraiment croiser les voix et tout. Donc je me suis dit, ouais, ce serait, là on m'avait proposé de faire un document sonore pour Radio Campus. Je me suis dit, ben, tant qu'à faire, autant essayer de faire un truc que j'ai jamais vraiment fait ou réussi à faire, parce que j'ai déjà essayé, mais j'ai jamais vraiment réussi à faire. Et là, je me suis dit, bon, je vais recommencer. Et Et donc, du coup, voilà, j'ai essayé de croiser les voix et jusqu'au bout.
Ben là, t'as réussi, là.
Mais là, je l'écoute pour la première fois avec des bonnes enceintes. Par contre, parce que moi, je l'ai fait sur des enceintes un peu merdiques à ce moment-là. Et j'entends les coupures. Donc, je suis pas. Ah, je me dis, ah mince, on entend les coupures et tout. Non, mais pas tout le temps. Parce que, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même beaucoup monté. Ouais. Beaucoup monté. Moi, quand je travaille sur de la voix. Je reprends même parfois des déglutitions d'un autre moment, je le remets pour créer pour rajouter de l'expressivité dans la voix ou des soupirs.
Ouais,
pour relancer la personne, parce que sinon, voilà, donc du coup, je découpe la voix, je rajoute des soupirs, des déglutitions pour vraiment rajouter. Donc du coup, c'est énormément monté, mais il y a quand même des moments où je me dis, ah, mais là, j'entends la coupure, ah mince.
Mais quand je disais que c'était super bien fait, c'est que le discours qu'elles ont toutes les deux, il y en a une qui est plus joyeuse que l'autre, qui est plus rigolote, en tout cas, rigolarde, je sais pas trop comment dire. Mais que du coup, ça donne un contretemps un peu, alors qu'elles ont toutes les deux à peu près le même avis, j'ai l'impression.
Mais ça évite de rentrer dans quelque chose de trop dramatique aussi.
Voilà, ça fait un juste milieu, c'est très touchant. Enfin, moi, ça m'a vachement.
Ouais, c'est soirée pour toucher. Très touchant, j'ai l'impression. J'espère que les deux votes sont bien.
C'était un mois. Bienvenue dans Soirée touchante.
Moi, ça m'a fait penser à. Quand j'étais allé au Burkina Faso, j'avais regardé la télé du Burkina pendant une soirée. Et en fait, il y avait des émissions, des séries de Bollywood qui étaient doublées en français, mais par des Burkinabés. Donc avec l'accent de là-bas. Et en fait, c'était ça, quand je discutais avec les jeunes de là-bas, la vision qu'ils avaient de la France, alors que c'était Bollywood. Donc c'est des Indiens qui étaient habillés en occidentaux et doublés en français avec l'accent africain. Et ils me parlaient de ça et ils me disaient « la France est comme ça ». Du coup, ça m'a fait penser quand tu parlais de la prairie avec le chemin de fer qui passe. Parce que c'est marrant et il y a un côté complètement absurde.
Je suis d'accord. Non, mais je pense que même jusqu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même un mythe européen qui perdure en Afrique et tout. Il y a des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour venir en Europe. Alors imaginez, dans les années 80, la France, France c'était l'Eldorado.
Je t'ai coupé, je suis désolé, mais c'est fou parce qu'en fait, la France Eldorado, ce qu'elle décrit, c'est le Cantal, c'est là d'où je viens. Alors que tout le monde se barre du Cantal. C'est trop marrant, tout le monde est là, c'est trop pourri, il n'y a rien à faire.
Allons au Sénégal.
Ouais, après, je ne lui conseille pas forcément d'aller là-bas, parce que les gens ne comprendront pas, je crois, la démarche. Cantalien.
Pour une émission spéciale, Cantal.
Ouais, je vais trop kiffer. On bouffera du fromage et on regardera passer des trains. T'as peut-être encore un petit peu à rajouter ou
pas? Non, pas.
Je suis désolé, je t'avais coupé.
Non, pas du tout, non.
Et du coup, on va passer.
J'avais une question en fait par rapport à.
Vous êtes en train de me pourrir, mon conducteur.
je te demandais si c'était un choix d'avoir gardé les deux, parce que moi j'ai l'impression que c'est hyper. Enfin, je l'ai ressenti de façon hyper fluide, le passage d'une voix à une autre. Enfin, même s'il y a des caractères différents. Et je sais pas si t'as recherché ça.
Après, c'est assez facile parce que. La fluidité, ça c'était vraiment recherché, et même le discours continu, une sorte de correspondance, mais elles disent pas tout à fait la même chose, donc ça alimente le tableau. Quand je le prépare, moi là-bas je suis documentariste, donc du coup, je les connais très bien, je connais très bien ma mère, je connais assez bien ma tante, donc du coup, avant d'aller là-bas, je savais plus ou moins où je voulais aller et comment j'allais quand même déjà croiser les voies et jusqu'au bout. Donc, après, c'est très facile quand tu fais ça avec des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. J'ai déjà essayé, là c'est déjà plus compliqué. Là, faut faire des. Mais c'était recherché.
Ok.
Et là, je vais enchaîner par contre. Plus personne ne pose de questions, vous vous calmez. Ok. Et du coup.
Allez, on enchaîne sur Robert de Virginie Fraisse. Un exercice fait aussi dans le cadre de l'ESAV. Et on y va tout de suite. Tu veux dire quelque chose, Virginie, avant?
On y va tout de suite.
Allez, on y va tout de suite.
Je m'appelle Robert. Меня зовут Роберт.
Comment êtes-vous arrivé ici?
J'ai marché. Je ne me suis jamais arrêté. Je ne voulais pas me congeler. Il fait toujours des avancées. Je ne me suis jamais arrêté. Là-bas, il faisait trop de froid. Je ne pouvais pas bouger. Comme je ne voulais pas me congeler. Quand on peut bouger, ça va. Mais sinon, ça c'est la merde.
Vous avez vu nos routes comme elles sont belles, bien lisses et bien propres. Vous cherchez quel type de travail? Ah oui, je comprends. Oui, mais pour avoir un logement, une fois que vous avez un travail, pas l'inverse. Pourquoi êtes-vous parti? Vous avez bien fait, oui. Écoutez, ici, vous êtes en sécurité. Il faut savoir que lorsque ce genre de choses arrive, on envoie les gens en prison. Ici, aucun problème. Vous pourrez avoir une voiture. On n'a plus besoin d'aller à pied. La vraie vie est d'avoir une voiture amie. Il est vrai que la vraie vie est d'avoir avec soi une voiture amie. De vivre avec, d'aller avec, une belle voiture, une vraie voiture. Voilà, la vraie vie est d'avoir une vraie voiture avec soi. La vraie vie est là, avec cette belle voiture qui est une amie, qui est belle, qui est là, qui est à soi. Voilà la vie, vivre avec une voiture qui est une amie. Voilà la belle voiture qui est une amie avec laquelle vivre toute la vraie vie. Vivre une voiture, vivre une voiture amie, vivre une voiture à soi, vivre avec une vraie vie qui est une vraie voiture, avec une vraie voiture à soi, une vraie belle voiture qui va partout.
C'était une histoire idiote. On s'est battu. Je sais pas de quoi. Mais quand j'ai pris un verre, je l'ai frappé sur la tête. Il était saoul. Il m'a dit que j'étais un pide. C'est un pédé. Je ne suis pas un pédé. Mais quand tu as cheveux longs, là-bas, tu es comme un PD. C'était comme une parc d'attractions. Tu vois, quand j'ai arrivé, c'était incroyable. Je pouvais toucher tout, tous les trucs qui sont là. Je me sentis comme un roi. Oui, je pouvais avoir tout, comme je voulais.
Je suis sûre que vous allez être bien ici. Vous allez voir.
Ты меня не хватаешь. Мало ли так не хотела увидеть этого. Ты на нас кричала. Я бы хотел мира с тобой. Ты мой брат. Брат, я тебя люблю.
Bienvenue. Bienvenue, Robert.
Alors, j'ai dit qu'on était dans une émission sur le documentaire, sur le portrait documentaire. C'est plus un portrait docu-fiction, j'ai l'impression.
Ouais, c'est parti de récits qu'on m'a fait. Et après, j'ai mis en scène.
D'accord.
Donc, c'est une fiction, on va dire, mais qui est basée sur du réel.
Lui aussi, il est mis en scène.
Ouais.
Robert aussi.
Ouais.
D'accord.
Ouais, ouais. Ah, vous êtes tous fait avoir. Hein.
Il y a un mélange de pas mal de choses en fait. Enfin, il y a plusieurs témoignages dont je me suis servi en fait pour écrire le personnage de Robert. Et après, il y a la personne réelle qui a interprété Robert, qui a son histoire propre. Où du coup, il y a des éléments qu'il a rajoutés. Après, il y a son accent aussi, qui est polonais. Et après, Judith, c'est une comédienne. Donc pour le coup, elle a été purement mise en scène.
Ouais, et en plus, je trouve que ton émission radio, elle pose vachement la question de la mise en scène dans un documentaire, quoi, parce que finalement, à la fin, ça fait un produit quand même qui s'apparente au documentaire quand même, parce qu'il y a plein de petits détails qui pourraient faire documentaire, et portrait documentaire d'ailleurs. Sur Robert, d'ailleurs tu l'as appelé Robert. qu'est-ce que tu penses de ça, c'est-à-dire de la mise en scène.
Oui, après il y avait un mélange parce que Robert en fait il travaille avec des immigrés. Du coup, lui il était en position inverse, d'être venu en France et de recevoir des personnes étrangères et de les aider ici. Et du coup, il interprétait. Plutôt un personnage qui arrive en France et qui se retrouve dans une déchetterie. En fait, c'est des sons de déchetterie. Je ne sais pas si c'est décelable ou pas au final. Mais... Et du coup, il y a ce mélange. Robert, il avait son ressenti de vécu et après l'histoire que je l'ai invité à interpréter, en fait.
Ouais, tu pars d'un fait.
Mais c'était ce mélange, moi, qui m'intéressait, en fait.
Yes.
Et plusieurs témoignages, cette histoire de marche à pied ou de froid.
Ça, c'est un truc qu'il
a entendu aussi.
C'est un truc qu'il a vraiment fait, ça, du coup, il est venu à pied, tout ça.
C'est une histoire que Robert m'a racontée, en fait.
D'accord.
D'un Polonais qui est venu à pied jusqu'en France. Après, il y avait l'histoire de quelqu'un d'autre, un Russe, qui m'a raconté que chez lui, les gars qui avaient les cheveux longs se faisaient défoncer, voire tuer en Russie. Et que du coup, lui, c'était ça qui l'avait poussé à bouger. Enfin, il y a eu un mélange de plein de choses par rapport à des personnes qui sont amenées à bouger et la réception qui est faite en France à travers le gros cliché de la voiture, quoi. Enfin, du coup... J'ai pas cherché à être dans quelque chose de fin de ce côté-là, quoi.
On va enchaîner un peu parce qu'on est sur la fin de l'émission, on est en retard.
On enchaîne et on va même finir par une émission radio qui s'appelle Chouchou de Hugo Moreau, que tu as fait avec Maxime Chiffaudel.
Que j'ai fait avec Maxime Chiffaudel, voilà. Exactement.
Et est-ce que tu veux me dire un petit mot juste avant de partir? Avant de partir dans le chouchou.
Non, chouchou, c'est parti. Mais je crois que c'est pas son nom officiel, chouchou. Mais bon, moi je l'aime bien ce nom, donc on va dire que c'est chouchou. Mais je crois qu'à la fin on dit un autre nom.
Allez, c'est parti.
Toulouse Mazamé.
Le train TER numéro 872412 à destination de Mazamé, départ 17h22, partira.
le train, c'est le... Enfin, les systèmes ferrés, c'est les seuls systèmes où le mobile ne décide pas de l'endroit où il va. Après, nous, on a le seul pouvoir, entre guillemets, qu'on a, c'est accélérer, freiner, et on vérifie l'itinéraire. En gros, il y a un tas de choses qu'on connaît sur la machine, et des premiers dépannages qu'on est capable de faire, c'est-à-dire, en gros, quoi qu'il arrive, réussir à mettre la machine dans de bonnes dispositions pour pouvoir rentrer quelque part dans une gare, que les gens puissent prendre des bus, des correspondances, enfin bref, sortir du milieu des voies. Au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on monte dans les roulements, on conduit des trains qui vont plus vite et qui vont plus loin. Voilà, moi je suis en début de carrière, je conduis des TER et un petit peu des intercités sur des parcours où justement ils vont pas très vite quoi. Bah, la finalité c'est le TGV. Le but c'est qu'avec toutes les composantes qui diffèrent tous les jours, les gens ils aient tout le temps le même service. Pour eux, ça doit être transparent. Alors je baisse les yeux, là je tape un truc, c'est sur un passage à niveau, juste à côté quoi. Je suis parti visiter, c'était un sanglier et c'était ultra galère parce qu'il a pété la moitié des trucs devant le train, il a fallu tout démonter, ça, on avait une heure de retard, c'était l'enfer quoi. Mais remarque, il y a eu un truc marrant, c'est qu'il y avait, quelqu'un qui gueulait sur la contrôleuse, qui hurlait parce qu'on était en retard, du coup on avait une heure de retard, c'était le soir. Et moi du coup j'avais démonté tous les machins qui étaient devant, les morceaux de carénage, j'avais du sang partout, la bestiole avait explosé à moitié sur le pare-choc. J'ouvre la porte, je balance les pièces pétées dedans avec les poils, la sanquette, tout le machin. Moi je transpirais, j'étais pourri, du sang partout. Le type qui était en train de hurler se stoppe, je le regarde, je dis ouais, il y a un problème, non ça va. Voilà, on est dans une drôle de société et aujourd'hui, et moi j'ai déjà vécu accident de personne, des gens dans le train qui disent bon, de toute façon, le mec il est mort, on a qu'à lui passer dessus quoi. Je dis ça, faut l'entendre quand même. Il y a quelques années, j'ai ouvert un compte sur Twitter. Tu connais le réseau social Twitter? Ok. Donc j'ai ouvert un compte, voilà, conducteur SNCF. Je vais vous parler de mon job quoi. Et là aujourd'hui, j'ai 10 000 personnes qui sont abonnées à mon machin là. Au début, je l'ai fait un peu parce que moi, quand j'ai commencé à travailler à la SNCF, même dans ma famille, quoi, on me dit, ah, bah, c'est cool, quoi, tu vas passer ta vie à faire grève, à rébranler, machin. Au final, le Noël, le jour de l'an, la plupart du temps, je passe au taf. Je vis en décalé, c'est pour la vie personnelle, c'est assez compliqué. C'est pénible de faire ça, même si ça me plaît, c'est mon métier, ça me plaît, je me plains pas. Mais c'est pénible de subir ces contraintes-là, et à côté, qu'on te dise, ouais, tu branles rien, et voilà, parce que c'est absolument faux, quoi. C'est-à-dire, on est aux 35 heures comme tout le monde en France, et point final, quoi. Et finalement, ça a dévié un peu parce que c'est plus maintenant sur l'explication du métier, parce que les gens ils ont vraiment envie de savoir. Ben, tout, hein, je sais pas, tout le monde s'est posé la question en entendant dans une gare qu'il y avait un accident de personne, mais le conducteur, qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la procédure, voilà. Finalement, ils disent pas bonjour sur le quai, mais ils aimeraient bien savoir quand même pourquoi. On va faire silence cabine parce que les signaux sont fermés là. On travaille avec des iPads dans des machines des années 70, donc tu sens le passé historique, parce que t'as mal au cul, mais tu sens que t'es quand même dans la modernité parce que t'as un iPad devant toi, quoi. Mais bon, moi ce que j'aime bien, c'est que on a des iPads pour faire la fiche train, mais finalement, la roue du TGV, elle a exactement la même forme, elle fonctionne exactement pareil que la roue de la Roquette, le premier train qui a existé, que Stephenson a inventé, et je trouve ça énorme. Je trouve ça trop bien de rouler à 300, à 320 même, avec un truc qui a deux siècles, plus de deux siècles. C'est trop cool.
Les petits jeunes.
Eh ouais, les petits jeunes.
Ça, non,
la relève.
C'est
vrai, eh ben c'est la relève.
Il est plus d'aide, il est parti l'année dernière, c'était mon aide conducteur, il est parti l'année dernière, je le vois plus. Il y en a un des petits jeunes.
Ouais.
Avec les Picasso.
Ouais, ouais. Ben, si je conduis comme ça, ça regarde, fait comme un Picasso. T'as bien raison.
Un documentaire de Hugo Moreau et Maxime Chiffaudel avec Antoine Baron. Merci à Agnès Taillardas, Sabine Jourdain, la SNCF de Toulouse-Matabiau et Philippe Van Dendrich.
Du coup, on est d'accord que c'était juste pour avoir un Toulouse-Mazamet gratos?
Ouais, en fait, voilà, je voulais faire un truc à Mazamet. Je sais plus ce que c'est. Non, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je revenais de Paris. Je sais plus pourquoi, mais j'ai dormi tout le trajet. Et j'ai passé un super bon trajet, du coup, il est passé super vite. Mmh. Je suis arrivé à Toulouse et je me suis dit, bah, j'aimerais bien dire merci au conducteur du train. Mais en fait, tu peux pas dire merci au conducteur du train. Enfin, ça se fait pas, et puis il y a plein de gens et tu le vois jamais. Et j'ai trouvé ça dommage. Et je me dis que ça serait vachement bien dans une cabine aussi. Du coup, j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir rentrer dans une cabine d'un train. En me servant d'excuse que je voulais faire un documentaire.
Du coup, on saura jamais s'il s'appelle vraiment Chouchou ou...
Si, il s'appelle Toulouse Mazamet, je crois, officiellement, mais moi, je l'ai toujours appelé Chouchou.
D'accord, Toulouse Mazamet.
Et oui, vous avez... Enfin, t'as été surpris de ce qui vous a... Enfin, t'étais seul ou pas, en fait?
Ouais, d'accord. Dans le train, j'étais seul.
Et t'as été surpris de ce qu'il t'a raconté? Enfin, de ce que t'as découvert, du coup?
Mais en fait, moi, je fantasmais un peu un vieux cheminot. En mode CGT, tout ça.
Ouais, avec... Les pelles de charbon, ouais.
Et puis en fait, ils m'ont donné, parce que pour pouvoir tourner dans un train, il faut arriver à tourner dans un train, donc il faut avoir l'autorisation de SNCF, toi, c'est compliqué. Et du coup, ils m'ont mis le jeune qui a un compte Twitter avec 20 000 abonnés, parce que c'était le mec qui présentait bien. Mmh. Et en fait, du coup, on a fait le trajet avec son chef, pour qu'il vérifie si, ce qu'il disait, quoi.
Ah, putain.
Du coup, c'était marrant, parce qu'il y a un deuxième personnage, en fait, qui est dans le film tout le long, et que j'ai coupé au montage, parce que je voulais pas qu'il y soit, mais qui parlait aussi et qui avançait. Et c'est marrant en fait tout ce truc de l'entreprise où tu gravis les échelons et où tu peux conduire des trains qui vont de plus en plus vite, tout ce rapport là.
Ouais, moins de réflexes, plus tu peux aller vite.
Oui, c'est ça,
c'est sympa.
C'est ça. Et il y a, je sais pas, il était assez lucide et en même temps assez critique aussi vis-à-vis de ce système là et de la SNCF, des trains. Par exemple, il nous disait un truc qui est que. On impute la plupart des retards à la SNCF, alors qu'en fait, c'est des trains de fret privés qui utilisent des machines de merde parce que ça coûte moins cher et qui, du coup, tombent en panne ou roulent plus lentement, et ce qui bloque les trains de la SNCF derrière. Et ce genre de choses, en fait. C'était marrant d'avoir le... Parce que c'est quand même la SNCF, c'est la bête noire où tout le monde dit « Ah, oh, ils sont en retard, machin ». C'était rigolo d'avoir le contrepoint et surtout d'avoir un mec qui est passionné par ça, quoi, et qui est complètement à fond. Et tu sentais que lui, c'était vraiment... Il avait trouvé son bonheur... Dans son travail, quoi. Il avait commencé en tant que mécano, il avait réussi à être conducteur de train, c'était le rêve, quoi. Et ouais. Voilà.
Et pourquoi, du coup, cette partie-là, tu l'as pas montée davantage
Quelle partie
Enfin, un truc plus biographique que...
On le sent, je trouve, un peu quand même. En fait, il m'en a pas parlé. En fait, il m'a pas parlé de lui, quoi. Il me parlait que de son travail et tout. D'accord. Je pense. Et j'ai peu de choses sur lui. J'ai l'impression qu'on le sentait, en tout cas, dans la manière dont il. Quand il parle de la roue à la fin et qu'il dit que la roue, elle a pas bougé.
Ouais, c'est juste.
Là, il y a la passion.
C'est génial, t'as vu ?
Mais oui.
Ça fait deux siècles que la roue. C'est trop bien.
Et en même temps, je comprends ce qu'il veut dire. C'est chouette, quoi. C'est fou.
Il va vraiment falloir qu'on conclue. Je suis désolé de couper un peu les... On peut en parler après. D'ailleurs, je vais donner aux auditeurs vos numéros de téléphone personnels pour qu'ils puissent en parler après avec vous, directement. Merci beaucoup, Charlie, pour avoir co-animé cette émission avec moi.
Merci, Thomas.
Merci à chacun d'entre vous. Merci à Simon, à Prince, à Virginie et à Hugo pour chacune de vos œuvres et pour en avoir parlé avec nous. Ensuite, merci à l'ESAV de nous avoir filé ces locaux. Merci aux masters son de l'ESAV qui font la technique ici, qui ont installé le studio, etc. Ouais. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la prochaine sur Ondes Courtes dans l'émission Clap, le cinéma qui s'écoute.
You ever been to Hollywood?
All right, let's get some pictures.
I love you.
I think it's about time you heard these recordings.
Allons, silence.
Clap, le cinéma qui s'écoute.